France Inter. Laetitia Gaillet. Le 6-9.
Deux invités dans ce studio, Claire Pontet, chargée des questions de PS en primaire au syndicat SNEP FSU, et Vincent Gérard, gardien du PSG Handball, médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Et vous présidez aussi le syndicat des joueurs et joueuses de hand. Alors bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
À quelques jours de la rentrée scolaire, quelle place pour le sport à l'école? Quel rôle aussi de l'école? La question est posée après les Jeux Olympiques et pendant les Paralympiques et à l'approche des Jeux de Paris, via un tweet en fait de Jean-Michel Blanquer qui a énervé un peu tout le monde cet été. Le ministre de l'Éducation nationale félicitait les sports collectifs qui ont été médaillés, dont vous Vincent Gérard, et il disait bravo aussi, ça illustre le travail des enseignants de PS à la bonne collaboration et la bonne collaboration avec les fédérations. Alors il y a eu beaucoup de réactions dans le monde sportif, dont vous Vincent Gérard. Evan Fournier, qui est basketteur et qui évolue en NBA, s'est fendu d'une tribune. Non, monsieur Blanquer, l'impact de l'EPS dans ma pratique du sport est minime. Aucun mes coéquipiers ne peut remercier aujourd'hui l'éducation nationale pour lui avoir permis de jouer au basket. Et ainsi de suite. Il a plaidé, Evan Fournier, pour une réforme, qu'on donne plus de place au sport à l'école, et il met en face la culture américaine. Depuis, Jean-Michel Blanquer s'est dit prêt à rencontrer Evan Fournier pour en parler. Voilà donc où on en est aujourd'hui, à quelques jours de la rentrée scolaire. Vincent Gérard, vous qui évoluez avec le PSG Handball et en équipe de France, qui revenez de Tokyo avec une médaille d'or, quelle place a eu l'école véritablement dans votre parcours jusqu'en équipe de France?
Il faut quand même imaginer que dans un parcours classique d'élève au collège et ensuite au lycée, le PS a une grande importance, mais le premier lien vers la compétition, c'est l'UNSS, parce que le
ce sont les compétitions à l'intérieur de l'éducation,
voilà,
de la scolarité, voilà.
Parce que le rôle de l'EPS, c'est pas un rôle de compétition, de former des sportifs de haut niveau. L'EPS, on essaye de développer des compétences sur la santé, des compétences sur le vivre ensemble. Et c'est là pour moi où Jean-Michel Blanquer a fait une petite ou une grosse erreur de communication. C'est-à-dire que il faudrait pas féliciter les profs de PS pour avoir amené vers le haut niveau des élèves. Il faudrait féliciter les sports collectifs pour avoir su mettre en œuvre dans ces moments où de grandes fractures dans la société française, d'avoir réussi à mettre en place des équipes avec des joueurs et des joueuses qui viennent de milieux différents, qui ont parfois des religions différentes, qui ont des âges différents et qui ont su mettre en œuvre un projet commun pendant une période qui est assez longue, 8 semaines, dans des conditions qui sont difficiles. Et ça, l'EPS en est le premier pas. Savoir tous ensemble évoluer dans un cadre commun avec des règles communes. Et c'est là où on peut évidemment dire que c'est une réussite de l'EPS. Mais en aucun cas, un professeur d'EPS n'est là pour former des sportifs de haut niveau.
C'est pas le rôle de l'école.
Non, clairement non.
C'est le rôle du club alors?
Oui.
De détecter tout ça?
L'EPS peut être un premier pas, un lien vers la compétition, mais la compétition est pour preuve, la notation en EPS, la performance vaut à peu près 30% de la note. On est sur d'autres compétences qui sont recherchées, donc le club recherche la compétition, l'EPS recherche autre chose.
Claire Pontet, dans ce que dit Vincent Gérard, vous approuvez, c'est le rôle de l'EPS à l'école, des cours de sport, c'est ça, c'est le vivre ensemble?
Alors, pas totalement, non. Pas seulement, en tout cas. Moi, je trouve que le rôle de l'école est déterminant pour donner le goût du sport aux enfants. Et pour donner le goût du sport, faut faire du sport.
Et on n'en fait pas assez.
Et donc, moi, je trouve que le rôle de l'école, c'est d'abord de proposer aux élèves des activités qui vont pas obligatoirement vivre en dehors de l'école. Par exemple, on a beaucoup parlé des sports collectifs. S'il n'y avait pas l'école, la majorité des filles ne feraient pas de sport collectif. C'est à l'école qu'on apprend à faire des sports collectifs. De la même manière, pour les garçons, c'est à l'école qu'ils apprennent à faire de la danse. Sinon, ils feraient pas de danse. Donc, l'école, c'est évidemment apprendre à vivre ensemble, mais je dirais plutôt apprendre ensemble. Et apprendre quoi? Apprendre à nager, apprendre à danser, apprendre à jouer collectif, apprendre. Donc, l'école a le devoir de développer des compétences chez les élèves. Et évidemment, comme c'est des compétences multiples, polyvalentes, on peut pas, enfin, il n'y a pas d'objectif de haut niveau derrière. Mais par contre, chaque élève doit sentir qu'il va à son plus haut niveau à l'école. Par exemple, un élève, quand il court à l'école, il court le plus vite possible. Quand il fait un match, il a envie de gagner. D'abord, même des fois, il pleure, il se dispute à cause de ça. Et c'est là que c'est intéressant de travailler le vivre ensemble et l'égalité garçon-fille. Enfin,
Mais pour que le sport attire, pour qu'on ait ce qu'on appelle la culture du sport, c'est ce qu'on demande pour Paris 2024. On dit beaucoup de sport, beaucoup de sport. Est-ce que le sport, finalement, il ne doit pas commencer plus tôt? On parle du collège, mais est-ce que ce n'est pas à l'école primaire que les choses se font, Claire Pontet?
Oui, même à l'école maternelle. C'est-à-dire que je pense que si vous allez dans une école maternelle, vous allez déjà voir des différences dans la façon dont les enfants ont été éduqués et déjà dans leur rapport à leur corps et à l'activité physique. Et donc, dès la maternelle, il y a l'idée de leur proposer des activités dans lesquelles ils vont vivre des émotions, dans lesquelles ils vont dépasser leurs limites, dans lesquelles... Et les enfants, tout petits, ils ne rêvent que de ça.
Mais est-ce que l'école a les moyens, ou en tout cas, à ce qu'il faut pour faire ça aujourd'hui?
Alors, formellement, l'école française est plutôt bien, à un dispositif qui serait plutôt bien, mais absolument pas les moyens de le faire fonctionner. Par exemple, la formation des enseignants a énormément diminué. Les équipements sportifs sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et surtout, on a un ministre ces derniers temps qui met tellement l'accent sur les maths et le français, que eh bien les enseignants, ils se disent voilà, ce qui est important, c'est les maths et le français, c'est pas l'éducation physique. Donc cette revalorisation de l'éducation physique dans l'école, elle devrait avoir lieu.
Vincent Gérard, c'est effectivement le moyen d'y accéder est effectivement la culture du sport à l'école.
Oui, la France est un pays de sport. Aux Jeux Olympiques, la France a fini 8e nation. On a des athlètes qui jouent pas forcément les médailles dans toutes les compétitions, mais dans toutes les disciplines. Mais on a quand même des athlètes dans toutes les disciplines. On est un grand pays de sport. La question, effectivement, on y revient toujours, c'est la question des moyens. Depuis 2014, je crois qu'on est passé de 1700 à 1400 CTS. Conseiller technique sportif qui sont là pour former les sportifs, former et détecter les futurs sportifs de haut niveau. La question est de savoir, est-ce que, alors qu'on était en pleine préparation, près de l'objectif Paris 2024, la question de savoir actuellement, c'est est-ce que pour faire du sport de haut niveau, est-ce que tout le monde peut faire du sport de haut niveau actuellement, même si la famille, les parents ne disposent pas de moyens plutôt conséquents? On voit Gabriel Tual, qui a fait finaliste du 800 mètres, qui est étudiant, qui dit qu'il peut s'entraîner parce qu'il habite chez ses parents et que ses parents peuvent survenir plus ou moins à ses besoins. Comment fait-on pour se battre à armes égales contre des nations où les sportifs de haut niveau sont plus choyés, les sportifs de haut niveau sont plus formés et ne doivent se concentrer uniquement que sur leur performance sportive? Donc il y a vraiment un décalage entre ce qu'on dit et la réalité des sportifs de haut niveau, peut-être hors sport professionnel, handball, basket, foot, mais pour un athlète, pour un nageur, ça peut parfois être très compliqué.
Mais vous, Vincent Gérard, vous êtes passé aussi par, avant de devenir sportif professionnel, vous êtes passé par là où tous les jeunes passent. La question que je pose, c'est que si on veut passer par un club, en gros, on passe tous par un club, il faut payer une cotisation. L'école, elle, est obligatoire. Donc il y a une ambivalence, il y a un paradoxe.
Oui, il y a aussi, on aurait pu souligner qu'il y a une réussite de la formation à la française avec le système des pôles espoirs, qui fonctionne très bien. On voit les résultats, je prêche un peu pour ma paroisse, mais dans le handball, ces 30 dernières années, c'est aussi le résultat d'une formation maintenant la troisième, à mon époque, dès la seconde, avec des élèves, des sportifs qui sont intégrés dans l'éducation nationale, mais qui sont à la fois aussi formés sportivement par des CTS, par des gens. Mais on est en train de couper les moyens. Encore une fois, à l'aube de Paris 2024, c'est très étonnant. Et en ce qui concerne l'accès au club, effectivement, ça a un coût. Moi-même, père de deux enfants, je sais qu'au début de l'année, bah, il faut payer les licences et ben bah, c'est pas accessible à tout le monde. Là où l'UNSS est peut-être plus facilement accessible, on peut se dire comment faire pour toutes les catégories de personnes pour pouvoir accéder à la compétition quand il faut débourser parfois 200, 300 euros pour une licence.
Claire Pontet, vous avez été formatrice en EPS. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, alors la question est peut-être dure, mais est-ce que les professeurs d'EPS aujourd'hui ont les moyens, sont suffisamment formés pour appréhender l'ensemble des sports et l'ensemble des catégories des sports? Alors après, est-ce qu'ils ont les gymnastes qui vont avec? C'est une autre chose.
Oui. Du point de vue de la formation, il faut vraiment distinguer la formation des profs d'EPS dans le second degré, qui jusqu'à présent a été réputée très bonne, et qui malheureusement, suite à toutes les réformes, perd des moyens et a tendance à être de moins bonne qualité que précédemment, et la formation des professeurs des écoles, qui, elle, est largement insuffisante pour que les profs d'école, donc à l'école primaire, puissent vraiment assurer correctement l'éducation physique. On est passé, au début de la création des UFM, qui étaient les premiers instituts de formation dans les années 90, il y avait 100 heures de formation initiale, et la dernière réforme mise en place par Monsieur Blanquer, il y a des instituts de formation qui ont 25 heures, donc une chute de moins 75%. Et la dernière réforme est la plus meurtrière qu'on vient de connaître. Donc je suis d'accord avec Vincent Gérard, il y a un décalage énorme entre les discours et les moyens mis en œuvre. Et c'est pareil pour les horaires d'éducation physique, par exemple. Les horaires, si on veut vraiment développer l'éducation physique, avec 2 heures en lycée, c'est pas suffisant. Avec 3 heures au collège, mon syndicat revendique 4 heures à tous les niveaux de la scolarité.
Parce que de toute façon, les jeunes, on le sait, ils quittent le sport en général. Ils sortent des clubs à moins qu'ils soient vraiment engagés. Ça se passe au moment du lycée, on le sait, hein.
Oui, et le dernier rapport sur la sédentarité des députés Juanico et Tamarel Véreg demande de passer à 3 heures au lycée parce que c'est souvent le moment où il y a un vrai décrochage et c'est le moment où on a tendance à se consacrer sur les études et à lâcher. Sauf que
En quoi c'est important au niveau physique, j'entends, mais c'est en quoi c'est important d'avoir la culture du sport, de faire du sport? En quoi, dans le développement d'un jeune, c'est important?
Il y a plusieurs axes. Il y a l'axe évident, l'axe de la santé. On sait que la sédentarité, c'est quelque chose qui nuit à la santé. Il y a aussi l'axe, alors c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais du vivre ensemble, de savoir développer des compétences en commun et qui sont transposables dans le milieu professionnel, qui sont transposables dans la vie quotidienne. Après le confinement, on a vu des pertes de conditions physiques de jeunes enfants qui étaient de l'ordre de 40%. Qui induisait aussi des pertes cognitives. Donc il y a clairement, on peut dire un esprit sain dans un corps sain, mais il y a un besoin de développer la condition physique pour pouvoir avoir une vie correcte, une vie normale.
Claire Pontet.
Oui, moi je dirais on gagne en liberté. C'est-à-dire que plus votre corps est développé, plus vous pouvez faire d'activités, plus vous allez avoir accès à des relations riches, des émotions riches, des découvertes de milieux que vous connaîtriez pas si vous avez peur d'aller en montagne, dans la mer, etc. Donc moi je trouve que pour une éducation moderne, c'est indispensable, c'est fondamental de faire de l'éducation physique.
Vous trouvez tous les deux, Vincent Gérard et Claire Pontet, que le ministère de Jean-Michel Blanquer, le ministère de l'Éducation nationale, est dans le faux, ou en tout cas est à côté de la plaque, on va dire entre guillemets, quand il dit 30 minutes d'activité sportive par jour dans le primaire, quand il met en place un pass sport pour la rentrée qui va permettre à certaines familles d'avoir 50 euros pour pouvoir accéder à un club de sport. Est-ce que vous trouvez que c'est pas assez, Vincent Gérard.
Pardon. Pour moi, il est pas dans le faux, c'est juste que il manque clairement d'ambition. 30 minutes par jour, 30 minutes, ça correspond à quoi? Que peut-on faire en 30 minutes? C'est injouable. 50 euros, c'est aussi, ça va dans le bon sens, forcément. Tout ce qui induit à faire plus de sport, à que ce soit à l'école ou en club, est forcément bon à prendre. Mais là, on est sur des doses qui sont homéopathiques. C'est forcément pas suffisant. Et il faudrait aller plus loin pour pouvoir avoir un accès à tous à la pratique du sport. C'est clairement pas assez.
Claire Pantet ?
Moi, je pense que c'est beaucoup de communication. Parce que, et bouger 30 minutes, sincèrement, à l'école, si vous dites aux enseignants, il va falloir bouger 30 minutes, ils vont dire, mais c'est pas notre travail, quoi. Notre travail, c'est d'apprendre aux élèves, c'est pas seulement de les faire bouger. Si vraiment on veut que les élèves bougent, on peut aménager les cours de récréation, on peut favoriser la façon d'aller à l'école en vélo, à pied, permettre aux enfants vraiment d'avoir une activité physique fonctionnelle, je dirais. Mais le rôle de l'école, c'est plus que ça. Donc moi, si j'étais Monsieur Blanquer, effectivement, je dirais pas l'EPS plus bouger 30 minutes, je dirais augmentons l'horaire d'EPS, donnons des équipements, formons les enseignants et développons le sport scolaire. Par exemple, l'exemple du sport scolaire dans le primaire est flagrant. Pour les profs de collège et de lycée, avec l'UNSS, ils ont des heures pour faire le sport scolaire. À l'école primaire, c'est bénévole. Je sais pas si vous voyez. Donc, faire du sport scolaire bénévole en plus de son travail, on ne peut pas demander ça aux enseignants. Tous les enseignants.
Je pense qu'on a des gens compétents, on a des gens pleins de bonne volonté. Comme l'a dit Madame Pontet, les profs d'EPS sont très bien formés, mais donnons-leur les moyens, donnons-leur les équipements. On parle des sports collectifs, mais comment faire du sport co quand on doit se partager un gymnase pour deux ou trois classes? C'est simplement impossible. Donc ils essayent d'optimiser, mais donnons les moyens aux gens de pouvoir, aux professeurs de pouvoir, et comme dans toute l'éducation nationale, j'ai envie de dire, mais donnons-leur les moyens de pouvoir faire leur métier de la meilleure des façons. Ça sera le meilleur moyen de respecter à la fois les enseignants et de respecter aussi les élèves.
Vous êtes, au regard de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit là, vous êtes, Vincent Gérard, en colère par rapport à ça?
Non, je suis pas en colère. Je suis pas en colère, mais je trouve ça toujours dommage d'essayer de rogner sur l'éducation, alors sur l'éducation physique, mais sur l'éducation en général, alors que ça devrait être la priorité des priorités de tous nos gouvernements, parce que c'est avec ça qu'on fait une société qui fonctionnera dans le futur. Alors peut-être que à court terme, c'est pas très rentable. Mais sur du moyen et du long terme, pour moi, ça paraît indispensable et j'ai l'impression que ça va pas dans le bon sens.
Et je vois Claire Pantet approuver.
Oui, moi ce qui me met en colère, c'est le décalage entre le discours de M. Blanquer ou du gouvernement et la réalité. Parce que on a un système qui pourrait bien fonctionner, il faudrait avoir les moyens de le faire.
Merci beaucoup Claire Pantet, Vincent Gérard d'avoir été les invités ce matin du Grand Entretien. Merci à vous.
Merci.